penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Cher François, François de Larbouste, vous êtes curé doyen de Grenade-sur-Garonne, enfin du vaste ensemble paroissial de Grenade-sur-Garonne, mais vous êtes là aujourd'hui dans notre émission « Penser vivre sa foi » pour nous parler du Christ, parce que vous faites un cours de christologie à l'IERP. Donc tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut croire de Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Et nous faisons cette série d'émissions ce mois de décembre où nous allons célébrer donc la fête de l'incarnation, la naissance de Jésus. Alors Jésus, ce petit qui naît à Bethléem, vrai Dieu, vrai homme.
Bonsoir Jean-Michel. C'est une. S'il est effectivement vrai Dieu et vrai homme, il est à la fois celui qu'annonçaient les prophètes, il est l'espérance de l'Ancien Testament. Et cette espérance qui a été, il faut le dire, comblée et même dépassée, à vrai dire. Hein. Le peuple d'Israël attendait le Messie. Hein. Le Messie, c'est-à-dire loin du Seigneur. Et,
alors précisons loin, l'apostrophe ou INT.
Absolument, oui.
Non pas celui qui a reçu l'onction. Et non pas celui qui est éloigné du Seigneur.
Exactement. Oui. Comme David, qui a reçu l'onction, justement, à Bethléem. Il a reçu l'onction, c'est-à-dire que cet oint du Seigneur est dans un rapport tout particulier d'amour, de filiation. L'Écriture est très prudente pour attribuer le nom de Père à Dieu, mais quelquefois, le prêtre, le roi sont dits fils, hein, ou le juste encore. Hein. Et voilà que cet oint du Seigneur est appelé à gouverner Israël, à le conduire sur des chemins de justice et de paix, avec l'espérance d'un royaume nouveau, qui n'est pas simplement un royaume temporel, mais qui est un royaume, en quelque sorte, où toutes les aspirations de l'homme à la justice, à la bonté, à la communion seront comblées. Hein. Et en même temps, donc ce Messie qui a une dimension aussi politique, qui concerne tout le peuple, hein, ce peuple qui sait qu'il dépend de Dieu depuis son origine, c'est constitutif, hein, ce rapport à Dieu. Et puis en même temps, on voit bien que dans l'Ancien Testament, petit à petit, l'espérance du Messie est aussi l'espérance d'un renouveau, non pas simplement de tout le peuple, mais aussi du cœur de l'homme. Hein. Dieu promet à l'homme la guérison profonde de son cœur. Hein.
C'est-à-dire, si je comprends bien, pas simplement une restauration, par exemple, de type politique ou même spirituel de l'ensemble du peuple, mais aussi de chaque membre du peuple.
De chaque membre du peuple. Vous voyez, par exemple, il y a ça dans Ézéchiel, hein, où on voit bien que cette restauration de l'ensemble du peuple passe par une restauration intérieure. Hein. Ézéchiel, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de vos idoles, je vous purifierai, je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau, alors je ferai que vous marcherez selon mes lois et que vous y resterez fidèles. Autrement dit, l'homme sent bien que dans son cœur, il y a à la fois de la grandeur, une aspiration à l'amour, à la bonté, à la paix, et il y a quelque chose de profondément blessé qui a besoin d'être guéri de l'intérieur, et peut-être que la loi ne suffisait pas, et qu'il fallait que vienne le Messie pour guérir profondément l'homme.
Alors ce Messie est fils de David, donc il y a une filiation par rapport à David, et peut-être que le fait qu'il naisse à Bethléem, Jésus n'est pas innocent, si je puis dire.
Ce n'est effectivement pas innocent parce qu'il est fils de David et Dieu avait promis à David qu'il aurait une descendance, qu'il gouvernerait. Donc le Messie devait être fils de David pour que s'accomplisse la promesse. Et en même temps, il est infiniment plus que ça. Hein, et le Christ le révèle et c'est pour ça qu'il dépasse l'espérance d'Israël. Sans nul doute, à la fois, oui, l'espérance des disciples qui étaient des bons juifs, qui attendaient le Sauveur, hein, a été dépassée, oui, par la révélation du Fils de Dieu.
Oui, donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y a, au moment où Jésus arrive, au moment où Jésus naît, à la fois il accomplit ou il vient répondre à une attente, à des espérances, mais en même temps il le fait d'une manière à la fois paradoxale et qui tout à la fois dépasse ses espérances, mais peut-être les surprend aussi.
Et les surprend, tout à fait. Oui. Et les surprend. Je ne pense pas qu'Israël attendait exactement un Messie manifesté dans la chair, en tout cas que Dieu s'incarne. C'est là que Dieu a dépassé toutes nos espérances. Hein. C'est saint Jean, je crois, qu'il dit que ce que l'œil n'avait jamais vu, ni l'oreille entendu, voilà, nous l'avons vu. Et il dit toute cette surprise de constater que le Verbe s'est fait chair, hein, que la vie s'est manifestée et qu'ils peuvent en rendre témoignage.
Mais ce Messie dont vous parlez, c'est-à-dire ce Christ, hein, puisque le mot Christ finalement dit en grec ce que Messie dit en hébreu, Meshia exactement, était-il de nature divine ou d'essence divine ?
Il était Dieu.
Je ne parle pas de Jésus, je parle des attentes.
Non, pas du tout. Non. Dans les attentes, non, absolument pas. Il était dans une très grande proximité avec Dieu, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il était une évidence que ce Messie serait Dieu, du tout. Et là, de fait, il y a eu un dépassement. Et de fait, en même temps que le Messie nous est donné, la figure de Dieu nous est révélée. C'est-à-dire que l'Ancien Testament avait connu l'unité de Dieu et la bonté de Dieu et certains attributs divins, sa toute-puissance, son omniscience, etc., son amour pour l'homme. Mais en même temps, eh bien, voilà que, en même temps que nous est donné ce Messie, nous est révélé le Fils, hein, qui est Dieu par nature, et l'Esprit et Dieu en tant que Père. Hein. C'est la Trinité qui est manifestée en même temps.
Ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'on peut avoir aujourd'hui des Juifs messianiques,
oui,
qui pourraient reconnaître en Jésus un Messie, mais pas Dieu. Pas Dieu incarné, je veux dire.
Tout à fait. Parce que Jésus se prête aussi à cette vision. Mais en même temps, eh bien, clairement, il a manifesté sa divinité. Alors, ça a été tout un chemin pour les disciples.
Alors, est-ce que cette divinité se manifeste à Bethléem, au moment où il naît ?
La divinité se manifeste à Bethléem au moment où il naît. Vous voyez, d'abord parce que la prophétie est accomplie. Hein, et toi, Bethléem, etc. Donc, d'une certaine manière, l'accomplissement de cette prophétie dit que Dieu dit la vérité. Dieu est manifesté comme vérité ici. Hein. Et puis, parce qu'il y a cette apparition des anges aux bergers, donc toute cette théophanie, d'une certaine manière.
Hein, oui, mais est-ce que ça, indirect. C'est pas une relecture ?
Ah, je ne sais pas si c'est tout à fait une relecture. En tout cas, le cœur des bergers était tout émerveillé, hein, et disait, voilà, venez voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Hein. De fait, leur cœur a été bouleversé.
Est-ce que ses parents, Joseph et Marie, avaient pleinement conscience de ce qui se passait ?
Non, la Vierge
c'est étonnant,
Marie,
d'ailleurs, hein.
C'est très étonnant, mais la Vierge Marie, à la fois, elle est immaculée, elle est toute pure, mais en même temps, on peut dire que sa foi a progressé. Pas dans le terme de foi, on désigne deux choses. On désigne à la fois la confiance en Dieu et la connaissance. Et il est évident que, pour ce qui est de la foi, la Vierge Marie a toujours eu confiance. Elle n'a jamais douté, elle n'a jamais été de l'ordre du péché. Elle a toujours été toute transparente à l'action de Dieu en elle, et voilà. Mais du point de vue de la connaissance, des mystères de Dieu, du mystère de sa volonté, la Sainte Vierge, eh bien, elle a marché, elle a cheminé, et petit à petit, elle s'est laissée éclairer par Dieu. À Noël, Marie comprend, plus que les bergers, qu'il y a un immense mystère dans cet enfant. Elle le sait de façon qui vient de Dieu. Hein, voilà. Mais petit à petit, elle va davantage comprendre. On voit bien que Jésus, au temple, dit « il faut que je sois aux affaires de mon père » quand il est perdu et retrouvé dans le temple. Donc petit à petit, Marie comprend davantage. Je ne pense pas effectivement que la Sainte Vierge ait tout compris à l'Annonciation. Elle a marché dans la foi.
Et même au moment de la présentation de Jésus au temple, donc Jésus bébé, les parents s'étonnaient de ce que...
C'est vrai.
De ce qu'on disait de lui. Et je trouve que cet étonnement est de Marie et de Joseph est réconfortant pour nous. Parce que ça veut dire que le mystère est toujours plus grand que ce qu'on en comprend.
Ça, c'est tout à fait vrai, oui. Et Marie s'étonne aussi parce que ce qu'elle découvre aussi à la présentation de Jésus au Temple, c'est finalement bien la rédemption par la croix aussi, hein, à travers la prophétie de Siméon. Et toi, une épée te transpercera le cœur, il sera signe de contradiction. Remarquez qu'elle l'a déjà, d'une certaine manière, un peu éprouvé à Noël, peut-être. Hein. Noël, c'est une fête à la fois lumineuse et en même temps, il y a un côté dramatique. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu.
Alors ça, cette dimension dramatique de Noël qu'on n'associe pas nécessairement à la fête de Noël, je propose, cher François de Larbouste, donc, qui a enseigné la christologie à l'IERP, de nous en parler lors de la prochaine émission. Donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine.